There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Oui, l'avantage, c'est que d'abord, ce sont deux sublissimes chanteuses. Vous avez vraiment bien ensemble, hein, toutes les deux, hein, les blondes, hein.
Ah ouais.
Deux petites sœurs. L'avantage, quand on a une chanson sous la main et un piano, c'est qu'on peut faire des, hein. Alors oui. Et une France Gall aussi. Allons-y, alors. Allons-y. Véronique Sanson et France Gall, au piano, ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez.
Oui, alors, et que vous connaissez peut-être pas trop, parce que c'est pas la plus connue.
De Michel. Hein, oui.
Voilà.
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Pas de coup bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast qui tranche toutes les rivalités, même celles que personne n'avait demandées. Aujourd'hui, on va trancher une rivalité que mon invité et moi-même avons demandé à corps et à cri, puisqu'on va essayer de savoir c'est qui la plus forte entre France Gall et Véronique Sanson. Bonjour Nicolas, comment ça va?
Bonjour Martin, ça va et toi?
Ben ouais, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de relever le défi.
Ben merci à toi de m'avoir invité à le relever.
Ces deux femmes qui ont beaucoup compté pour, enfin qui comptent encore pour Véronique Sanson puisque elle est encore vivante. Au contraire de son opposante du jour qui malheureusement nous a quitté il y a pas longtemps. Deux femmes qui comptent et qui ont compté beaucoup dans la musique française et pour un Michel en particulier. Mais on va y revenir un peu plus tard.
Ça va être une longue partie de l'émission.
Et donc, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie de traiter ce sujet avec moi aujourd'hui?
Alors moi, je suis fan de la pop française et de la variété française. Et en fait, ce sont quand même deux icônes parfaites qui représentent bien la musique de notre cher pays. Elles ont eu à peu près le même âge. Elles ont commencé à peu près dans les mêmes décennies. France Gall un peu plus tôt, mais on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, elles ont compté pour beaucoup de gens, parce que ce sont deux chanteuses qui ont eu énormément de succès, qui continuent à en avoir et qui influencent encore la nouvelle génération de musiciens et de musiciennes. On en parlera aussi d'ailleurs.
Oui, je pense qu'on finira pas ce podcast sans dire les mots Juliette et Hermanet.
Mais pas que.
Bon, bah très bien, écoute. Oui, parce que pour te présenter rapidement quand même, la musique, ça te connaît.
Un petit peu.
Quelles sont tes activités en lien avec la musique?
Alors, je suis déjà moi-même musicien, chanteur, voilà, depuis quelques années. J'ai sorti 3 albums, dont le dernier qui s'appelle Bleu Piscine, qui est sorti en 2018. Et puis, je suis également le fondateur d'un webzine qui s'appelle Faces Zine, qui traite de la pop française, un petit peu en particulier, même si je parle aussi d'artistes internationaux. Mais voilà, ce sont des portraits de musiciens et musiciennes plutôt pop, que vous pouvez retrouver sur mon site www.faceszine.com.
Bon, alors avant de lancer le combat, est-ce que tu te sentirais de rappeler qui est qui pour peut-être nos auditeurs et auditrices les plus jeunes?
Bah oui, alors nous allons parler, donc on va commencer par France Gall. France Gall, qui est une chanteuse qui est née le 9 octobre 1947 et qui est malheureusement décédée en janvier 2018. Voilà, France Gall, on pourrait dire que c'est une icône pop depuis les 60s. Elle a chanté des tubes populaires et imparables depuis les années 60. Je pense que tout le monde a en tête Sacré Charlemagne, Laisse tomber les filles pour les années 60. Et dans les années 80, des chansons comme Des branches, Résiste, Il jouait du piano debout. Donc voilà, elle fait partie un peu du patrimoine pop français depuis les années 60. Et Véronique Sanson, qui est aussi chanteuse, qui est née, elle, le 24 avril 1949 et qui est toujours vivante. On pourrait dire que c'est un auteur-compositeur de génie qui est très populaire également, qui a sorti beaucoup d'albums, qui a également eu beaucoup de tubes comme Amoureuse, Besoin de personne, Chanson sur ma drôle de vie, entre autres, et qui continue à remplir des salles de concert, à être disque d'or à chaque album, et qui, elle aussi, fait partie vraiment des chanteuses populaires et importantes en France. Et en fait, on les associe souvent parce qu'elles ont aimé le même homme. On en parlera plus tard. Et puis qu'elles font, depuis les années 60-70, elles font partie de la culture. Alors qu'elles ont quand même un style musical et des personnalités assez différentes.
Ouais. Mais c'est un peu le principe de cette émission, d'aller sur les rivalités qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Mais bon, on peut pas s'en empêcher.
C'est ça. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les zones des autres totems, tes drôles de poèmes, viens avec.
Alors, tu parlais du fait que Véronique Sanson était disque d'or encore à chaque fois qu'elle sortait quelque chose, donc ça va être l'objet de notre premier critère de confrontation avec la question cruciale, qui a eu le plus de succès?
Alors c'est compliqué parce que en fait elles ont vraiment toutes les deux eu énormément de succès depuis qu'elles ont démarré dans la musique. Alors on va commencer par France Gall. France Gall, elle chante depuis 1964. Son premier titre s'appelait N'écoute pas les idoles. Et en fait France Gall, c'est bien simple, depuis les années 60, elle a vendu plus de 20 millions de disques. Elle fait partie dans le classement des 8 personnalités, des 8 chanteurs et chanteuses français qui ont vendu plus de 20 millions d'albums. Elle se classe 8e, c'est la deuxième femme derrière Mylène Farmer, et donc elle est 8e au classement général. Après, si on voit le classement mondial, elle est 20e, ce qui est quand même énorme aussi, de vente d'albums en France. Et voilà, après ça s'explique parce que depuis les années 60 elle a eu du succès, déjà parce qu'elle a gagné l'Eurovision avec la chanson Poupée de cire, poupée de son, qui est une chanson qui a été adaptée dans plusieurs langues, donc elle a eu énormément de succès en Allemagne aussi, en Angleterre, voilà, en Allemagne elle a carrément fait des albums entiers en allemand dans les années 60. C'était vraiment une chanteuse qui s'exportait beaucoup. Et puis elle a quand même fait 15 albums entre 1964 et 1996. Avec voilà, des hits que tout le monde chante encore dans les karaokés, comme Il jouait du piano debout, comme Résiste, comme Babacar, comme Elle là. Voilà, on peut dire vraiment qu'elle fait vraiment partie de la culture populaire française. Je pense que même les plus jeunes connaissent ou peuvent connaître France Gall. Parce que bon, évidemment, elle est décédée récemment, donc elle est revenue un peu dans l'actualité. Mais
il croit que c'est Blablacar, par contre.
C'est ça. C'est un peu ça. C'est vrai que dès qu'on entend Blablacar, on a la chanson immédiatement en tête. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a tenu longtemps, c'est-à-dire qu'elle a eu un petit creux dans les années, au début des années 70, mais elle est revenue très fort après sa rencontre avec Michel Berger, on en parlera tout à l'heure, mais qui du coup lui a permis de devenir vraiment la chanteuse populaire des années 70-80, et un petit peu les années 90. Elle a mis un terme à sa carrière en 96, mais voilà, elle a continué à être là. Il y a des artistes qui lui ont rendu hommage. Je pense à Jennifer, qui avait sorti un album de reprise de ses chansons, mais on en parlera plus tard pour un autre côté de France Gall, de sa personnalité. Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté, qui compte dans la culture populaire française.
Ok. Et alors, Evero ?
Evero. Bah, Véronique Sanson, elle arrive un petit peu plus tard dans le paysage musical, parce qu'elle sort son premier single qui s'appelle Le Printemps est là, ça sort en 1969, mais c'est pas non plus un succès énorme, c'est-à-dire que on va dire que c'est après la période yéyé, mais vraiment, Véronique Sanson, elle éclate en 1972 avec son premier album qui s'appelle Amoureuse, et depuis cet album-là, elle en a fait 16, qui ont tous été disques d'or, voire double disque d'or ou de platine. Et elle aussi fait partie des 50 artistes qui ont vendu le plus de disques en France, entre 55 et 97. et elle se place même devant Queen dans ce classement. D'accord. C'est dire. Voilà, elle a fait des, elle fait toutes ses tournées, se joue à guichet fermé. C'est une icône à la fois populaire et à la fois underground parce qu'elle est citée par plein d'artistes, même anglo-saxons. Je pense à The Last Shadow Puppets qu'il a cité dans son dernier, enfin en tout cas dans les influences qu'ils ont eues pour réaliser leur dernier album. Et Juliette Armanet, évidemment, dont on parlait tout à l'heure, avec qui elle a chanté d'ailleurs sur le dernier album de Véronique Sanson, un D'accord. album qui s'appelle Duo Volatile, où Véronique Sanson reprend ses titres avec d'autres artistes, dont Juliette Armanet. Voilà, mais Véronique Sanson, c'est vrai que c'est une influence durable parce qu'elle est là depuis très longtemps, elle est moderne. Par exemple, il y a Françoise Hardy qui dit toujours que quand Véronique Sanson est arrivée, elle a ringardisé toutes les chanteuses d'avant, et même elle. Et pourtant, Françoise Hardy reste une icône quand même assez branchée. Mais voilà, elle continue à, voilà, à fasciner les gens. Leïla Bekti et Géraldine Nakache avaient repris une de ses chansons pour le film Tout ce qui brille, ce qui a permis aussi, je pense, à une génération plus jeune de découvrir Véronique Sanson. Voilà, elle a fait quand même des tubes absolument imparables comme Besoin de personne. Voilà, donc voilà, elles ont vraiment toutes les deux eu du succès. Donc c'est difficile de savoir qui a le plus de succès.
Mais dans ce fameux classement là dont tu parlais, est-ce qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre ?
Bah oui, c'est France quand même. France bat tous les records vraiment. Puisqu'on, c'est vrai qu'on parle souvent des plus gros vendeurs de musique en France et il y a souvent peu de femmes et c'est vrai qu'elle en fait partie. Donc c'est France qui gagne quand même.
Bon, très bien. Donc France gagne la première manche.
France Gall gagne la première manche.
Celle du succès commercial.
Celle du succès commercial, ouais.
Très bien.
Der Computer, Nummer 3, sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer.
Deuxième question, une question qui me tient particulièrement à cœur et qui va aussi tenir particulièrement à cœur à Julien Baldacchino, fondateur de Radio Michel. Laquelle des deux est le plus Michel Spirit ?
Ça, c'est une question compliquée parce qu'en fait, déjà Véronique Sanson a quand même, quand elle a démarré sa carrière en 72, elle a fait les premières parties de Michel Polnareff.
Ah,
c'est pas mal quand même.
Un
premier point Michel. Et puis en 1989, elle a fait une tournée des Enfoirés avec Michel Sardou.
Ah, deuxième point Michel.
Donc deuxième point Michel. Mais bon, on va pas dire que ce sont les Michel les plus essentiels dans la carrière.
Elle a fait une chanson qui s'appelle Pour les Michel.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Ah bah tu vois, je ne savais pas ça. Mais bon, on va pas dire que ce sont des Michel qui ont été très importants pour sa carrière et pour France Gall non plus. Donc évidemment, c'est Michel Berger qui a été le Michel de référence parce qu'effectivement, elles ont toutes les deux vécu une histoire d'amour avec Michel Berger. Sanson de 1967 à 1972. Ils se sont rencontrés quand ils étaient assez jeunes, ils avaient 18 ans. Voilà, il est devenu son directeur artistique. Et l'arrangeur de son premier album qui est sorti en 72. Donc c'est vraiment un amour de jeunesse en fait, Véronique Sanson et Michel Berger. Et puis pendant l'enregistrement d'un album, Véronique s'en va chercher des cigarettes et en fait elle n'est jamais revenue.
Ouais.
Elle a plaqué Michel Berger pour partir avec Stephen Stills qui était un musicien américain connu pour Crosby, Stills, Nash & Young,
ouais.
Et elle est partie avec lui habiter aux États-Unis. Elle l'avait rencontré à Paris quelques mois avant et ça a été le coup de foudre. Voilà, donc elle part vivre avec lui, elle aura un enfant avec lui, mais elle continue sa carrière, elle enregistre ses disques aux États-Unis à ce moment-là, elle sort des disques, mais la correspondance en fait avec Michel Berger s'est jamais vraiment éteinte parce qu'ils se sont toujours un peu parlé par chansons interposées. On parle souvent de la chanson « Seras-tu là ?» de Michel Berger et elle qui lui répond « Je serai là » dans une chanson après. Voilà, elle a aussi rendu hommage à Michel Berger sur tout un album qui s'appelle « D'un papillon à une étoile », où elle reprenait uniquement des chansons de Michel Berger.
C'était après le décès de
Michel
Berger.
Ouais. Et puis, elle a quand même écrit l'une de ses plus belles chansons qui s'appelle Mortelle Pensée, qui est sur l'album Moi le Venin, qui est sorti, me semble-t-il, en 1989. Et cet album se termine par une chanson qui s'appelle Mortelle Pensée, qui est absolument sublime, où elle parle en fait de tous les regrets qu'elle a eus voilà, en arrêtant cette histoire d'amour. Et voilà. Donc à l'époque, Michel Berger était encore vivant, donc je ne sais pas.
Surtout que ça s'est pas hyper bien passé, je crois, avec comment il s'appelle, Stephen Stills.
Non, on en parlera plus tard.
On va pas spoiler alors.
Non, ça a été un peu compliqué.
On y reviendra plus tard.
Voilà. Et puis voilà. Mais c'est vrai que bon, Véronique Sanson, c'est une des rares femmes autrices, compositrices de sa génération. Elle a quand même travaillé avec Michel Berger, qui était son arrangeur, mais c'est quand même elle qui est à la base vraiment des chansons qu'elle a chantées. Et puis elle a toujours été d'une extrême modernité. Je pense que c'est ça qui avait séduit Michel Berger, qui était lui aussi très moderne d'ailleurs dans sa manière de composer des chansons. Voilà, c'est vrai que Véronique Sanson, ça pourrait être le mélange entre Barbara et la pop anglaise des 60s, où vraiment quand elle arrive en 72, quand on réécoute son premier album, le son est d'une modernité incroyable, c'est très actuel. Voilà, ils ont inventé vraiment un son qui a perduré pendant toutes les années 70. Voilà, c'était vraiment un binôme artistique, en tout cas Sanson et Berger, qui était ultra intéressant.
Alors même si Michel Sardou a chanté Ne m'appelez plus jamais France, à quel point France Gall est-elle Michel Spirit?
Bah, France Gall, elle est quand même ultra Michel Spirit, parce que bon, elle le rencontre en 74 et la première chanson qu'il lui écrit, c'est La Déclaration. Donc voilà, on ne peut pas faire plus impactant. Donc voilà, c'est le début d'une histoire d'amour qui a démarré donc dans ces années-là et qui s'est terminée avec la mort de Michel Berger en 1992. Ils ont eu deux enfants qui se prénomment Pauline et Raphaël. Et à partir de 74-75, France Gall devient la muse exclusive de Michel Berger. Elle chantera plus que ses chansons à lui, alors que dans les années 60, elle avait quand même collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs, dont Gainsbourg ou Joe Dassin. Mais là, voilà, en chantant les chansons de Michel Berger, il la hisse au sommet. Elle devient vraiment la chanteuse la plus populaire de France à ce moment-là. Le point culminant en 1980 avec Il jouait du piano debout, qui est vraiment un tube énorme que vous pouvez chanter dans tous les karaokés de France. Donc voilà. Et puis voilà, ce qui est intéressant aussi dans la relation entre Michel Berger et France Gall, c'est que France Gall, c'est une muse, mais c'est pas une muse passive. C'est quand même, quand elle chante les chansons de Michel Berger, on pourrait penser que c'est elle qui les a écrites, parce qu'elle a, voilà, les chansons montrent le côté un peu autoritaire de France Gall, avec des injonctions comme résiste, des branches. Il y a vraiment quelque chose qu'on sent de la personnalité de France Gall qui se dégage dans les chansons que Michel Berger lui écrit. Et puis voilà, ça, c'est quand même c'est assez rare qu'une relation comme ça de muse à auteur dure aussi longtemps. On pense évidemment à Jane Birkin et Gainsbourg, voilà, et à l'instar de Jane Birkin d'ailleurs, France Gall a continué après la mort de Michel Berger à défendre le répertoire de son homme à travers des albums, des tournées, un spectacle. Voilà, elle s'est vraiment dédiée au génie créateur de son mari, on va dire. Et puis ils ont traversé aussi, on en parlera aussi dans une autre section, mais ils ont eu une vie privée particulière avec leur fille qui était malade. Voilà, mais en même temps, on sent qu'il y a un véritable amour et que c'est pas simplement France Gall n'est pas simplement un faire-valoir, c'est vraiment elle participe vraiment à tout ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment le surtout au début des années 80, il y a vraiment ce côté du couple, peut-être qui est sur tous les fronts, qui s'engage dans des mouvements sociaux, notamment avec Mitterrand, Touche pas à mon pote, des choses comme ça. C'est un couple aussi qui fait découvrir les problèmes qu'il y a en Afrique à travers leur voyage, voilà. Donc on sent qu'il écrit vraiment des chansons pour elle, qu'elle aurait presque pu les écrire elle-même, quoi.
D'accord.
Et puis toutes les deux ont quand même chanté ensemble une seule fois.
Ah oui?
Une chanson de Michel Berger qui s'appelle La groupie du pianiste.
Ah oui.
En 1994 sur le plateau de Taratata. C'est la seule fois où elles ont chanté ensemble après la mort de Michel Berger.
Ça s'est bien passé?
A priori, en tout cas, le duo est très réussi. On peut le voir sur le site de Taratata. Et c'est un très joli moment où on sent qu'elles sont émues toutes les deux.
D'accord. Bah alors du coup, t'arrives à les départager sur l'esprit Michel.
Bah là, l'esprit Michel, c'est compliqué parce que vraiment, voilà, comme je viens de dire, France Gall et Michel Berger, c'est une collaboration artistique incroyable. Et en même temps, ce que Michel Berger a fait avec Véronique Sanson. Et puis moi, je pense qu'on ne peut pas trancher des histoires d'amour. On ne peut pas juger les histoires d'amour des gens. Donc pour cette section-là, je vais les mettre à égalité si ça ne t'ennuie pas.
Non, non, ça me va. Tant qu'à la fin, on arrive à dégager quelqu'un qui gagne, c'est bon. On peut faire des matchs nuls sur certaines manches.
Ça va alors.
Pour la manche suivante, on va se poser encore un autre type de question, et c'est un peu une relecture moderne de leur vie, hein, mais c'est un peu qui a été la plus badass, je sais pas, émancipée, rebelle, affirmée, que sais-je. Qui était la plus badass?
Je pense qu'elles l'étaient un peu toutes les deux à leur manière, en fait, parce que voilà, comme je viens de dire, France Gall a quand même, dans les années 80, elle apparaissait un peu comme l'archétype de la femme forte avec Résiste. Voilà, il y avait un truc comme ça, très des injonctions un peu mitterrandiennes, en fait. Un truc comme ça de la nouvelle gauche française qui arrivait au pouvoir. Et voilà, en 1981.
D'ailleurs, quand tu as dit « touche pas à mon pote » tout à l'heure, je me suis dit qu'il y a plein de gens qui ont dû dire « non, c'est à mon poste ».
C'est vrai.
Il se trompe, le chroniqueur.
Mais non, non, non. Pour les gens qui sont nés après 1986... Enfin, vous regarderez sur Internet, vous tapez « touche pas à mon pote », vous allez trouver plein de trucs. Voilà, donc c'est vrai qu'elle avait cette personnalité un peu comme ça, autoritaire, et puis avec ce côté aussi où elle prenait position sur des choses, sur l'Afrique notamment. Elle participait à beaucoup d'œuvres caritatives autour de ça. Et puis dans sa vie personnelle, du coup, c'est pas un secret, mais elle a quand même vécu des choses assez douloureuses. Déjà, la perte de Michel Berger, qui est mort en 1992. Et puis derrière ça, elle a perdu sa fille Pauline, qui était malade, qui avait une mucoviscidose, donc du coup peu de temps après, et puis après elle s'est battue contre un cancer, donc quand même c'est vrai qu'elle, comme ça, alors je veux pas faire de la psychologie de bazar parce que on n'est pas là pour ça, mais ça, voilà, elle se relevait en tout cas, et puis elle a continué sa carrière, elle a continué à aller faire des concerts, à défendre l'univers de Michel Berger, à voilà, une battante finalement, elle résistait beaucoup, donc c'est quand même quelque chose qui est très important dans ce qu'on perçoit de la personnalité de France Gall. Et puis je pense qu'elle avait un caractère bien trempé, en tout cas voilà, il y a eu quelques clashs récemment qui nous ont montré ça, notamment avec Jennifer qui avait sorti un album de reprise de chansons de France Gall, et en fait ça n'a pas du tout plu à France, et elle l'a fait savoir de manière assez bruyante.
Elle a fait une Polnareff versus Obispo, c'est ça,
elle nous a fait la même, alors que je pense que voilà, Jennifer sortait un album, c'était plutôt un hommage, c'était plutôt une déclaration d'amour à une chanteuse, donc c'était, voilà, je connais pas très bien l'album, mais en tout cas sur le papier ça me semblait être un projet plutôt sincère. Voilà, et puis elle avait aussi fait des déclarations un peu ambiguës sur le mariage pour tous, mais bon, ça après c'est toujours pareil, on sait jamais dans quel contexte c'est dit ou sorti, voilà, mais du coup il y avait eu quelques petites choses dans la presse. Voilà, mais en tout cas, pour moi, France Gall, ça reste vraiment quelqu'un de fort, de militant, de voilà, une militante sociale 80s, un peu ça pour moi, France Gall.
Ouais, c'est ça.
Et puis elle a aussi ce côté, parce que c'est vrai que je pense qu'elle a été pendant les années 60, je pense notamment avec l'histoire des sucettes de Gainsbourg, où elle arrivait, elle avait 16 ans, on lui faisait chanter ça à double sens, ce qu'elle avait pas compris à l'époque. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez intelligent, c'est qu'elle a toujours assumé ce côté d'avoir été candide à ce moment-là, et de dire, mais en fait, c'est les hommes qui sont mauvais, qui ont été mauvais avec moi, qui se sont fait de l'argent avec cette histoire. Et en fait, je trouve ça bien d'assumer ça aussi, de dire, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire à une enfant de 16 ans, et ce qu'un esprit un peu plus pervers peut faire. Mais elle a toujours assumé ça aussi, le fait de dire qu'elle ne savait pas et que, voilà, et que c'était normal. Oui, bon. Et je trouve que voilà, je trouve que France Gall a toujours été d'une sincérité absolue et d'une franchise, voilà, en tout cas dans ce qu'elle donnait à voir dans les interviews.
Et alors Véronique Sanson ?
Alors Véronique Sanson, pour le coup, je pense qu'elle est badass dans un autre style. parce que d'abord, Véronique Sanson, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer sa fragilité, sa sensibilité dans sa musique, dans ses chansons. C'est quelqu'un qui ne nie pas avoir été alcoolique, qui ne nie pas s'être drogué. Elle en parle même dans ses chansons. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a une des premières chanteuses, à mon sens, qui en a parlé de manière aussi libre dans son travail. Notamment la chanson Vancouver, où elle parle justement des tournées, des choses qu'elle cherche dans la ville. Voilà, y a quelque chose qui est très humain et en même temps, elle en fait quelque chose de très artistique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun filtre et elle apparaît vraiment comme l'archétype de la femme libre, Véronique Sanson. Dans les années 70, elle est incroyablement moderne. Elle tombe amoureuse d'un Américain, elle décide de se barrer avec lui en abandonnant tout ce qu'elle était en train de construire. Voilà, elle est d'une absolue liberté pour ça. Voilà, elle a eu un mariage du coup avec Stephen Stills qui était pas très heureux parce qu'il la battait, l'alcool, la drogue, tout le milieu des années 70 aux États-Unis, de cette contre-culture qui sur le papier peut paraître super géniale, mais qui en fait au quotidien était peut-être difficile pour une femme justement. Voilà, elle s'est quand même mariée avec Pierre Palmade qui était homosexuelle notoire et ben elle est tombée amoureuse de lui, elle s'est mariée avec lui en se foutant un peu du camp dira-t-on. Elle a toujours vécu un peu comme elle l'entendait. Le spleen romantique et assumé de ses chansons, vraiment il y a des textes de Véronique Sanson. Je parlais tout à l'heure de la chanson Mortelle Pensée qu'elle avait écrite en pensant à Michel Berger. Vraiment c'est d'une brutalité presque dans l'émotion, parce que ça il y a vraiment aucun filtre là-dedans dans plein de chansons. Il y a une autre chanson qui s'appelle Mi maître mi esclave où pareil elle raconte ses sentiments, ce qu'elle vit de manière absolument sans filtre. Voilà, je dis, pour moi, c'est vraiment l'archétype de l'artiste sans filtre où finalement, il n'y a rien entre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle crée. C'est-à-dire que c'est comme si elle couchait directement sur le papier ou sur le piano ses émotions. Et c'est pour ça qu'elle est aussi touchante, en fait, et qu'elle est badass. Parce que en plus, à une époque comme aujourd'hui, où on a tendance à se marketer soi-même et à faire des choses pour se dire « il faut que je plaise, il faut que j'ai des followers, il faut que j'ai des likes », là, on a une chanteuse qui en fait propose des choses, qui fait des chansons absolument personnelles, et nous on n'a plus qu'à les prendre et à pleurer en les écoutant en gros. Et puis voilà, et puis c'est quelqu'un aussi pardon, tu voulais peut-être dire
non, je t'écoute.
Qui a aussi pour le coup d'un point de vue parce qu'on a parlé un peu des engagements politiques et sociaux de France Gall, elle a aussi eu ces engagements là elle a fait notamment partie, Véronique Sanson, de la première tournée des Restos du Cœur avec Michel Sardou entre autres en 1989. Et puis elle a aussi fait une chanson en 1988 ou 9, je ne sais plus, qui s'appelle Allah, pour lequel elle a été menacée de mort et que du coup elle avait été obligée de retirer de son répertoire à ce moment-là. Mais elle a fait face à la polémique, elle a assumé. C'était d'ailleurs une des rares fois où elle parlait d'un sujet d'actualité dans une de ses chansons. Et finalement, elle y a été aussi un peu sans filtre et des gens ont a priori été heurtés et voilà.
Je suis sûr que c'est Michel Sardou qui lui avait donné l'idée.
Peut-être. Ils avaient peut-être eu des discussions là-dessus, sait-on jamais.
Tu devrais y aller.
Faut leur dire à tous ces gens.
Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu arrives à trancher ?
Moi, j'arrive à trancher. Alors après, c'est effectivement, on pourrait penser que la vie de France Gall, voilà, les choses noires qui lui sont arrivées en font une personnalité badass, ce qui est le cas. Mais je donne quand même le point à Véronique Sanson parce que je pense qu'elle a, voilà, l'émancipation, la liberté totale qu'elle a assumée dans sa vie et dans son œuvre en font pour moi quelqu'un de badass.
Écoute, je valide.
Tu valides ?
Je valide, même si c'est vrai que ce côté fort de France Gall est hyper intéressant et assez fascinant, mais la force contre la liberté, on est obligé de donner le point à la liberté.
Bon, bah, il nous reste un dernier critère,
ouais,
pour les départager, parce que attends, là, j'ai même pas compté, on est à égalité parfaite, là, non ?
On est à égalité parfaite, ouais, ouais, exactement.
Donc, c'est le dernier point qui va tout départager, et c'est un point à la fois simple et compliqué, puisqu'on va se poser la question de savoir qui a chanté les meilleures chansons.
Ça va être très subjectif, tu sais ça, Martin.
Oui, mais on est là pour ça.
Bon, elles ont quand même eu toutes les deux des tubes énormes. Vraiment, des chansons vraiment excellentes, toutes les deux. Voilà, bon, on va commencer par France Gall, mais c'est vrai que moi j'adore, j'ai un petit fait pour la France Gall 60s en fait. Tiny Winnie Boppy, Bébé Requin, Il y a du soleil à vendre, Les Sucettes, voilà, elle a quand même travaillé avec des compositeurs et des auteurs excellents. Bon, on retient souvent Serge Gainsbourg parce qu'évidemment c'est celui qui est le plus connu, mais elle a aussi travaillé avec Joe Dassin, elle a travaillé avec des arrangeurs incroyables comme André Pop, elle a vraiment... C'est bizarre parce que c'est une carrière qu'elle a un peu reniée par la suite, parce qu'effectivement, je pense qu'elle n'avait pas d'emprise tellement sur cette carrière-là. Elle était jeune et je pense qu'on lui imposait pas mal de choses artistiques. Mais n'empêche qu'à l'intérieur de ça, il y a vraiment des choses incroyables, des mélodies. Une chanson qui s'appelle Christiansen, où on peut entendre des réminiscences derrière de choses que vont faire Bertrand Burgala, par exemple, ou le revival 60s qu'il y a eu dans la pop française. Enfin, elle a vraiment influencé beaucoup de chanteuses. Je pense notamment à une chanteuse qui s'appelle The Rodeo, qui a sorti un album l'année dernière, très inspiré par France Gall 60s, où on retrouve même parfois dans le grain de sa voix des intonations de France Gall, et qui est un album vraiment très réussi que je vous recommande. Cette imagerie-là était aussi très intéressante. April March avait repris Laisse tomber les filles, qu'on avait notamment entendu dans la BO de Boulevard de la mort de Tarantino. Enfin, voilà, il y a cette période-là qu'elle a reniée, bizarrement, et celle qui perdure aujourd'hui dans l'influence sur les nouvelles chanteuses ou même les chanteurs. Voilà, il y a parce que c'était vraiment il y a même des chansons presque un peu easy listening à la Burt Bacharach, où vraiment il y a quelque chose de très 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 intéressant musicalement. Et voilà, c'est quand même une chanteuse qui chante extrêmement bien. Elle n'a pas une voix ultra puissante, mais elle est d'une justesse hallucinante. Elle peut chanter des standards de jazz, ou en tout cas des chansons de jazz, aussi bien que des pop songs rythmés. C'est quand même une chanteuse qui a un sens du rythme incroyable dans sa voix. Elle est vraiment capable de faire des prouesses vocales, vraiment. D'accord. Alors qu'on pourrait croire comme ça que non, mais les chansons de Michel Berger, mélodiquement sont quand même assez alambiquées et peuvent être parfois difficiles à chanter, et elles s'en sortaient haut la main. Il suffit d'écouter des enregistrements live de ces chansons et moi j'ai grandi dans les années 80 comme toi, Martin, ce que tu disais tout à l'heure, et pour nous voilà, France Gall c'était la chanteuse incontournable. Blablacar, donc. Mais bon, aussi le jouer du piano debout, enfin il y en a plein. J'ai une petite tendresse pour une chanson qui s'appelle Calypso, qui est sur l'album Des Branches, où elle raconte qu'elle rencontre un homme avec qui elle a une histoire, mais qui a pas du tout les mêmes goûts musicaux qu'elle, et voilà. Et j'adore cette chanson qui pourrait apparaître un peu ringarde au niveau des arrangements, mais qui est superbe. Voilà, donc France Gall, quand même, bonne chanson et super interprète. Et puis, Véronique Sanson, alors moi, je l'ai découverte pour le coup plus tard.
Ouais.
Il y a quelque chose que je voudrais rajouter sur France Gall aussi, c'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'étais enfant, mes parents écoutaient beaucoup Brel, Brassens, Claude Nougaro, tout ça, et moi, ça me faisait chier, je détestais cette musique-là. Mais ils écoutaient aussi France Gall, et c'était la chanteuse qui vraiment me réconciliait avec la musique de mes parents. C'est-à-dire que si on mettait une cassette de France Gall dans la voiture, j'étais content, parce qu'on pouvait chanter tous ensemble. C'était vraiment, voilà, ça faisait vraiment partie d'un truc. Donc j'ai beaucoup de tendresse aussi pour les chansons de France Gall des années 80. Et voilà, et donc je voulais arriver à Véronique Sanson, que j'ai découverte plus tard, du coup, plutôt adolescent. Je crois que le premier album que j'ai acheté de Véronique Sanson, c'était l'album Sans Regret, où il y avait la chanson Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Voilà, d'ailleurs, que Christine and the Queens a repris il n'y a pas très longtemps, de très belle manière d'ailleurs. Et puis du coup, j'ai déroulé le fil comme ça. Je me souviens que j'avais récupéré des vieux 33 tours chez des amis de mes parents, et notamment des 33 tours de Véronique Sanson. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment à l'adolescence son premier album, Amoureuse. Et on peut, une fois que j'ai entendu cet album-là, c'était mort. J'étais convaincu par Véronique Sanson. Et puis, bah, quand on écoute toutes ces chansons, voilà, c'est quand même incroyable. Je parlais tout à l'heure de la chanson Mi Maître, Mi Esclave. Il y a aussi des chansons comme Ma Révérence. Enfin, il y a vraiment énormément de chansons magnifiques. C'est un peu une femme piano hyper inspirante, Véronique Sanson. La chanson Besoin de personne, autant au niveau du texte, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur elle, sur la liberté. Dès son premier titre, elle dit qu'elle n'a besoin de personne. Et la chanson est d'une modernité incroyable. Au niveau du son, ça n'a pas pris une ride. Voilà, il y a une chanson comme Le Maudit aussi qui est absolument sublime. Elles ont vraiment, enfin, toutes les deux fait des tubes, des vrais tubes, et en même temps des chansons personnelles. C'est une carrière riche, variée, longue, qui continue. Et voilà. Toi, c'est quoi ta chanson préférée, Martin?
De Véronique Sanson. Ouais. Je pense que ça doit être Amoureuse. Hein, c'est pas très original, mais en même temps.
C'est une belle déclaration.
Tout le premier album est vraiment parfait, en fait. Il y a quasiment que des chansons parfaites dedans. Moi, je l'ai vu en concert il y a pas longtemps. Alors, elle a un répertoire tellement long que forcément, sur un long concert comme ça, il y avait des hauts et des bas. Mais oui. c'était quand même quelque chose de la voir sur scène. Et c'était vraiment un plaisir de la voir jouer à la fois. Toutes ces anciennes chansons, ouais. Et des choses plus récentes et plus surprenantes que je connaissais pas forcément. Après, il y a un truc qui m'embête avec Véronique Sanson, c'est ce qu'elle a fait de sa voix au fil du temps, en fait.
Oui.
Ça, c'est un truc qui m'ennuie un petit peu, et je suis pas fan de son vibrato qu'elle appuie de plus en plus au fil des années. Voilà, mais bon, après, c'est vrai qu'en même temps,
quand elle a démarré en 72, c'était assez moderne de chanter comme ça.
Oui.
Et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de gens ont essayé de l'imiter, et elle s'est peut-être un peu caricaturée parfois, effectivement.
Voilà, ouais, c'est ça.
Alors que France Gall, pour le coup, est restée toujours moderne dans sa manière de chanter, en fait.
Ouais. Bon, moi, si c'était moi, je donnerais le point à Véronique Sanson, mais c'est pas moi qui donne les points. Moi, je suis que l'arbitre.
Mais en fait, moi, sur qui a chanté les meilleures chansons, je peux pas dire, en fait. Parce que pour moi, c'est égalité, parce que j'aime autant de chansons de l'une que de l'autre. Mais par contre, il y a un point sur lequel on peut les départager et qui va faire pencher la balance. C'est que Véronique Sanson écrit toutes ses chansons et compose toutes ses chansons, et France Gall, non.
Ouais.
Donc, on va dire que vraiment uniquement à cause de ce détail qui a quand même son importance.
Ouais.
Je donnerai le point à Véro.
Ok. Moi, je valide, hein. Je suis d'accord avec toi. Tu sais si France Gall a écrit et composé un peu ou
Alors, pas à ma connaissance.
D'accord.
En tout cas, je crois pas. Je crois que, par contre, ce qu'on peut dire de France Gall, c'est qu'elle avait un vrai talent, à mon avis, d'arrangeuse et de productrice de chansons. Parce que à la mort de Michel Berger, elle a fait plusieurs albums hommages où elle était en charge, en fait, de la production artistique de ces albums-là et des tournées. Et là, je pense qu'on a pu se rendre compte qu'elle avait quand même un talent pour arranger les chansons. Et je pense que c'est dû à sa musicalité, c'est-à-dire que je pense que c'est une chanteuse très instinctive et qui chante extrêmement juste. Et donc voilà, elle a je pense que France Gall n'était pas auteur-compositeur, mais elle avait un goût très sûr. Elle choisissait vraiment extrêmement bien les chansons. J'imagine qu'elle choisissait dans ce que lui offrait Michel Berger, mais en tout cas je pense qu'elle avait un vrai don pour avoir un répertoire très en phase avec sa personnalité, et puis dans l'arrangement des chansons, voilà ce qu'elle a pu démontrer derrière à la mort de Michel Berger. Mais à cette époque-là, on avait souvent tendance, de toute façon, à penser qu'une femme musicienne n'était pas forcément capable de faire des choses, c'est-à-dire que maintenant, on s'en rend quand même plus compte, parce qu'il y a beaucoup de femmes et de chanteuses productrices. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'une chanteuse qui n'était qu'interprète, même si c'est elle qui avait les idées d'arrangement, les idées de production, on ne les créditait pas forcément pour ça.
Ouais. Et une fois de plus, de ce point de vue-là, Véronique Sanson était un peu un ovni.
Oui, complètement.
En 72, autrice-compositrice.
Il y en a d'autres qui sont arrivées derrière, comme Catherine Lara, je pense, à l'époque, un peu à la même époque, dans ce sillon-là. Et puis, évidemment, après, avec plein d'autres chanteuses et plein d'autrices-compositrices. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, elle était un peu une des seules. Una noche yo me adormecí. De pie
maman.
Bon, et ben Véro a gagné.
Bah Véro gagne. Véronique Sanson a gagné ce duel. C'est...
Là, on peut vraiment dire que choisir, c'est renoncer, quoi.
Ah oui, parce que vraiment, moi j'aime vraiment les deux, et c'était très difficile pour moi de trouver les petits détails qui ont fait pencher la balance.
C'est ça le haut niveau, hein. Ça se joue à des détails.
Exactement.
Bon, merci Nicolas.
Merci Martin.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver sur Internet, donc sur mon site Internet, facesin.com, voilà, où vous pourrez découvrir des portraits de plein de chanteurs et chanteuses pop, des photos, des interviews et des portraits, voilà. Et puis, bah, sinon, faut guetter mes concerts,
ouais. Voilà. Qui sont sur ton site aussi.
Qui sont sur mon site, qui sont sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram.
Ton site, c'est l'adresse de ton site?
Alors c'est diffy.com/Nicolas Vidal.
Où on tape Nicolas Vidal dans Google et
à
on
mon
te
avis,
trouve.
Voilà. Alors après j'ai plein d'homonymes, donc tapez peut-être Nicolas Vidal, musique.
Ok, ouais. Très bien, ça marche. C'est qui le plus fort est un podcast Micro Stockholm. Si l'émission vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, ça fait toujours beaucoup beaucoup de bien. Vous pouvez également mettre des étoiles sur Apple Podcast, ça aide. Surtout que l'émission a eu la chance d'être mise en avant sur iTunes, donc ça c'était cool parce que ça a ramené beaucoup de nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices. Mais l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le délire et qui du coup ont sabré dans les commentaires et dans les étoiles. Donc j'essaye de rattraper un peu ça. J'essaie aussi d'améliorer l'émission. Et puis la dernière chose que vous pouvez faire, c'est soutenir l'émission sur Tipeee, ce qui permet d'assurer le rythme hebdo et également d'organiser des événements live. On aimerait bien faire un enregistrement en public bientôt, peut-être avec d'autres podcasts de Micro Stockholm d'ailleurs. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous demander pour l'instant. Nicolas, à bientôt. Je pense qu'on va se retrouver dans pas très longtemps.
Avec grand plaisir.
Allez, bonne semaine.